Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission par Nadia Lichtig.
Nous rencontrons aujourd'hui l'artiste Louise Doyen au sein de son exposition personnelle « Peignons-nous dans le bois » à l'espace Saint-Ravi à Montpellier. Diplômée en 2023 de la HEAR, de la Haute École des Arts du Rhin, Louise Doyen développe une pratique où peinture et écriture s'entrelacent, explorant les frontières du visible et du langage. Plutôt qu'un discours figé, son travail ouvre des brèches. Comment une image transforme-t-elle ce qu'elle représente? Comment un mot devient-il une matière, une présence? Allons maintenant entendre Louise Doyen nous guider au travers de son exposition. Là, il y a des peintures par terre, une sorte d'installation sur papier.
Oui, alors c'est pas du papier, c'est aussi de la toile de trampoline. Ah. Mais c'est vrai que là, elle est vraiment découpée et puis totalement sortie de son cadre ou de son contexte. Donc, c'est d'abord au sol plusieurs ronds qui sont noirs, mat, sur lesquels on peut voir une trace de pneu qui est fragmentée entre les plusieurs ronds. Et juste au-dessus, sur le mur, il y a un type d'acarien. C'est un acarien qui vit sur le visage, sur toutes les peaux humaines. Et donc, c'est un petit peu la partie de l'exposition concentrée sur le monde plus microscopique et surtout donc des êtres vivants qui sont plus invisibles et qu'on commence un petit peu tout juste à appréhender vraiment au-delà de leur aspect nocif, entre guillemets.
Il se retrouve aussi sur une petite toile qui se trouve tout à la fin de l'expo, noire, avec un acarien aussi.
Oui, c'est plusieurs types d'acariens, de bactéries, même des sortes de cellules aussi là. Et en fait, là, je voulais vraiment créer une sorte d'environnement avec aussi un petit rond qui rappelle encore le lien avec l'abstraction. Et se dire que dans ce petit rond, c'est un petit peu comme un focus, il peut en dégager toute une nébuleuse aussi d'êtres vivants. Et en fait, je trouve que ça déconstruit aussi un petit peu la notion d'individu, parce que c'est comme si finalement on n'est jamais seul, on est toujours à plusieurs cohabitations avec des êtres vivants dont on ignore même l'existence. Donc j'aime bien essayer de mettre en valeur aussi ce petit monde-là. Et surtout, donc il y a des rapports d'échelle assez intéressants. C'est zoomé et puis c'est pas des images très réalistes, mais parfois je tire un petit peu mes figures vers une sorte de personnification avec des traits un petit peu anthropomorphiques ou anthropocentrés.
Oui, on voit ensemble avoir des mains, on pourrait dire aussi que c'est une personne, c'est une toile assez énigmatique, non?
Oui, c'est vrai, oui, qu'il y a aussi une forme de silhouette et qui finit aussi un peu en halo.
C'est beau. Est-ce que c'est un titre?
Alors, celle-ci, oui. Mais j'avoue que j'ai un trou là.
On regardera pas. Et quand on est ici, quand on se tourne un peu, on voit aussi le trampoline de l'autre côté. Là où on a vu l'écureuil d'un côté, maintenant, qu'est-ce que c'est? Un brocoli?
Oui, exactement. c'est un brocoli. Et en fait, le trampoline permet d'exploiter aussi les deux faces. Et donc là, c'est la première fois aussi que j'ai un projet à double face. Et pour moi, c'est un petit peu l'image de la pièce de monnaie, le hasard et le pile ou face qu'on peut changer, en fait, aller d'un versant ou d'un autre. Et c'est pour encore plus apprivoiser la peinture et puis avoir une sorte de diversité de formes. Et le brocoli, c'est parce que pour moi, c'est un petit peu une forme arbre, en arborescence, et je trouvais ça bien d'inclure la tête du spectateur aussi dans une des branches.
D'accord. Voilà. Alors, il y a comme ça un humour un peu assez singulier quand même. Hein. Alors, ce qui est assez beau quand même avec ce trampoline, quoi, avec ce troué, c'est qu'on peut finalement observer le monde au travers. C'est assez étonnant ce qui se passe derrière. Enfin, dans l'espace, qu'est-ce que ça crée? Ça a un focus sur l'endroit.
Oui. Oui, c'est vrai qu'en faisant ce trou, je voulais vraiment inclure un petit bout du réel, en fait, aussi dans la peinture, qui peut changer, avoir un mouvement. Parce que souvent, je trouve que les définitions des choses et des êtres, ou même d'un sujet de peinture, c'est toujours corrélé à un contexte, qu'il soit théorique ou spatial ou même social. Et donc, là, je voulais vraiment que l'œuvre soit reliée à tous ces contextes par cette petite lunette dans laquelle on peut regarder.
On avance un peu, parce que je crains de ne pas pouvoir couvrir toute l'expo si on reste trop longtemps sur chaque œuvre. Alors, quand on arrive maintenant, quand on se tourne à gauche, après être entré de l'expo, on se retrouve de ce qu'on voit de l'extérieur. Donc là, il y a d'une part une sculpture et puis une peinture orange soulevée avec ses socles.
Oui.
Et puis un hérisson.
Oui, donc c'est l'hérisson qui fait l'affiche de l'exposition aussi. Et c'est un petit format de 50 cm par 50 cm qui est tout blanc, sur lequel il y a un hérisson qui est en train de se mettre en boule. Et en fait, je voulais essayer de représenter cet être par son rapport à l'espace, justement, où dans certaines conditions, il prend cette attitude où il va un petit peu figer ce qui se passe en se mettant en boule et en se protégeant. Et donc voilà, je voulais vraiment, à ce moment-là, quand on regarde ce tableau, c'est un petit peu comme une sorte de décadrage pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait le mettre dans cette position. Et donc, encore une fois, un lien avec l'espace extérieur où en fait, cet hérisson, il a forcément un contexte qui est autre, mais qui est absent du tableau. Donc, c'est aussi à créer dans le regard du spectateur.
Les titres sont importants dans ta pratique?
Oui, quand même. Sur certains tableaux, surtout, je trouve qu'il y a un titre qui leur va très bien. Et après, je suis encore aussi un peu en construction à ce niveau-là, parce que je trouve que mettre du texte à une peinture, c'est pas toujours facile. Surtout dans ce boulot qui essaye un petit peu de jouer de ces frontières-là. Souvent, j'avais des titres un petit peu trop descriptifs. Donc là, cette fois, le titre, c'est « Position intransitive ». Et en fait, c'est pour faire un clin d'œil justement à cette position qui admet ni sujet ni objet et qui est un petit peu juste en train de figer sans trop, juste en réagissant au contexte, mais sans non plus en faisant abstraction en fait de ce contexte, en se mettant en boule. Voilà.
Et à gauche, il y a donc cet objet très très étrange. Qu'est-ce que c'est?
Bah là, c'était l'occasion de faire vraiment une installation avec une peinture qui est insérée dans un objet, qui est en fait un objet qui est mobile, avec des roulettes. Et donc, c'est une sorte de caisse en bois dont on ne voit pas l'intérieur. Sur le dessus, il y a la peinture et il y a une poignée dans le prolongement de la queue, parce que c'est une souris en fait qui est vue de dos. Et donc, il y a la queue qui part jusqu'en bordure du format, avec une poignée en bois et qui prolonge. Donc on peut s'amuser à traîner, promener cette peinture. Et voilà, c'était encore dans cette question aussi d'inclure un corps et un mouvement dans l'interaction avec la peinture.
Donc une peinture qu'on peut traîner avec soi.
Oui, c'est ça. On peut emmener. Et puis c'était un petit clin d'œil aussi aux histoires de chat et de souris, à cette question de poursuite. Et en même temps aussi un petit peu de chat de Schrödinger, où on sait pas trop, parce qu'on dirait que la souris là finalement elle plonge dans la caisse, mais on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà.
Alors là, on était avec la physique quantique et on passe maintenant à un objet très coloré. Alors ça, c'est rare ici, c'est une gueule de loup.
Oui, c'est une gueule de chien. Et donc c'est sur un fond orange très vif, qui est peint à l'huile. Souvent, c'est vrai que j'ai des fonds peints à l'acrylique pour leur matité, mais parfois j'aime bien avoir que de l'huile sur la toile. Et là, en fait, c'est un chien qui représente une sorte de trop-plein, qui a beaucoup couru, mais qui est aussi dans un état d'apaisement, en fait, par rapport à ça. Et souvent, quand le chien a la langue pendue, c'est que c'est sa manière de respirer un peu plus fort et peut-être d'être un petit peu plus en vie aussi. Et je trouve que c'est un état qui est assez paradoxal, parce qu'on pourrait interpréter ça comme une fatigue, mais finalement, je pense que c'est quand même une ambiance très énergique qui s'en dégage. Et voilà, je voulais montrer un petit peu cette sensation du chien.
Et là, le titre ?
Le titre, c'est « Un peu plus », justement, pour avoir cette idée d'un petit peu plus, quoi, de toujours aller un peu plus loin et que c'est pas un mal si on a la langue pendue. Quoi.
Très bien. Donc là, d'ailleurs, on voit beaucoup de... Ici, dans ce coin, on voit beaucoup de poils peints.
Oui.
C'est le coin des... Enfin, après, il y a aussi l'écureuil. Peut-être par la suite, il y aura ça aussi. Mais ici, on est avec des animaux à fourrure.
Oui, c'est vrai que là, c'est vraiment la partie un petit peu des poils, des fourrures, des textures des animaux. Et puis, dans mon travail de recherche aussi, j'essaye de questionner un petit peu la représentation des animaux, des êtres vivants, essayer de déhiérarchiser les espèces pour avoir une vision un peu moins anthropocentrée. Et donc voilà, j'aime bien recréer un petit peu des... pas des sortes de zoos, mais presque, où il y a plusieurs cohabitations.
Alors là, on entre dans la deuxième salle.
Oui.
On change encore d'ambiance.
Oui, c'est vrai que d'un seul coup, la lumière s'assombrit un petit peu et on arrive sur une installation avec trois peintures, dont une qui est, je dirais, à peu près 1m40. Le milieu de la peinture est à 1m40 du sol. C'est un carré de 1m par 1m. Et donc, c'est un seau d'eau qui se projette sur un fond blanc. Juste à côté, il y a aussi un format de 1m par 1m, avec cette fois un arbre. C'est un cyprès qui a une branche cassée et dont l'extrémité de la branche m'a fait penser à une sorte de main ou de poing serré. Et donc, c'est une image que j'ai vraiment vue un soir. J'ai trouvé ça assez particulier et donc je l'ai repeinte sur un fond aussi qui fait penser un peu à la nuit et des couleurs assez contrastées avec aussi toujours cette idée de traits en fait qui peuvent un petit peu tout former comme un trait un petit peu anatomique ou qui peuvent aussi faire penser à des poils ou une sorte de filament.
Et puis devant, il y a une toile qui est à l'horizontale.
Oui, et avec trois pieds. Donc ça fait comme une mini table. Et donc c'est un petit tableau de 40 cm par 40 cm qui est aussi carré. Et en fait là c'est la première fois que j'ai essayé de peindre une expression du langage. Donc celle-ci c'est « Oh la vache ». Et donc c'est un « O » fait en motif de poil de vache avec au milieu un nez de vache. Voilà, c'était essayer de travailler, donner une image à une expression assez commune, à un effet de surprise, en fait, d'étonnement.
Tes influences, c'est au sein de la peinture, enfin, de l'histoire de la peinture, c'est qui est-ce que tu regardes en peinture ?
C'est assez varié. C'est vrai que j'ai pas vraiment de style particulier, puis je pioche un petit peu dans plusieurs univers. Il y aurait d'abord pour le travail des supports, en plus venant de Montpellier, le groupe Support Surface, pour explorer vraiment la matérialité de la peinture et puis son lien à l'espace. Après, je trouve que dans cette même lignée, il y a eu Olivier Mossé, dont j'aime bien le travail, que je trouve assez direct, oui, voilà, et qui pète un petit peu au regard, on va dire. Mais aussi du coup le travail de Georges Rousse qui lui vraiment exploite aussi l'espace dans ses sujets et après j'ai aussi quelques affinités avec des peintres réalistes Même si pour moi, peindre de manière réaliste, c'est comme une impossibilité que j'ai pas envie d'explorer. Et en fait, j'ai quand même surtout Gustave Courbet, dont j'adore le réalisme et qui, en fait, pour moi, c'est un réalisme qui crée un décadrage toujours sur l'image. Et c'est là où elle prend tout son tournant avec le réel. Donc. J'adore Gustave Courbet et après des peintres aussi plus récents, j'ai vu l'étoile de Guillaume Bresson. Là, j'ai été vraiment impressionnée par le point photographique en fait de ses peintures, mais tout en n'étant pas justement dans un rapport de similitude avec la photographie. Beaucoup aussi dans des brumes aussi qui créent des ambiances aussi assez noires. Donc j'aime bien. Et après, je navigue aussi avec des références plutôt abstraites. Et surtout aussi une peintre, Sylvie Fanchon, qui fait vraiment cet entre-deux, entre figuration et abstraction. Donc voilà, c'est un petit peu mon univers. Après, j'ai aussi beaucoup aimé les clairs-obscurs, surtout la peinture du Caravage.
J'ai cette question parce que ça, enfin, c'est quand même assez surréaliste comme peinture, celle-là. Mais elle sort du lot en même temps, pas trop. Parce que si on s'approche maintenant de la fond de la salle, on se retrouve avec un œil,
oui,
un très grand œil fermé.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y aurait parfois un lien avec le surréalisme, mais je pense quand même que mes images, je me rapproche aussi plutôt d'une sphère conceptuelle, où j'essaye d'inclure dans une même image plusieurs définitions de choses. Et donc, c'est des images qui sont quand même mentalisées à l'avance, qui sortent pas d'un imaginaire, qui sont plutôt une construction de sens. Et donc, c'est là où je m'écarte un petit peu du surréalisme, où je cumule un petit peu plusieurs casquettes, ou plusieurs figures, plusieurs visages. Et donc, là, cette toile, justement, on dirait un œil fermé. Donc le titre de la toile, c'est « Citron pressé ». Et en fait, c'est une sorte de forme un petit peu mollasse qui se dissout dans le fond, qui est un fond noir très mat. Et c'est assez horizontal, en fait. Il y a cette grosse forme qu'on pourrait penser comme un citron un petit peu pourri ou comme un œil qui est en train de se fermer. Et pour moi, ça traduit un état un petit peu de fatigue ou de repos. Et donc, en fait, j'aime bien voir mes peintures plutôt comme des sensations produites, plutôt que comme des formes délimitées avec un contour net qui sont dans la définition pure. Et donc, je laisse aussi très ouvert cette interprétation. Et j'aime bien cultiver les sensations produites sur le corps, à quoi ça fait penser.
Et à côté de cette toile qui fait peut-être un mètre... 50, non, un peu moins, peut-être 40.
Oui, 1m30.
Ouais. 30, ouais, 30. Par 1m30, il y a une toute petite toile à gauche, placée bien plus bas. Et là, on voit deux mains qui nous supplient depuis l'enfer, je ne sais pas.
Oui, alors cette peinture, elle s'appelle Tenir au jus. Et en fait, je l'ai faite très tôt dans mon parcours, quand j'étais en deuxième année aux Beaux-Arts. Et donc. C'est deux mains qui mettent une sensation d'accueil, en fait, de contact un petit peu, qui sont très ouvertes pour accueillir. Et en fait, il y a aussi un petit mouvement dans le fond, comme si la main bougeait avec le doigt tendu, et comme une sorte d'apparition. Oui, c'est avec un fond qui est assez rouge, assez vif. C'est vrai qu'elle est assez dynamique, cette peinture.
Et puis quand on se tourne de nouveau à droite, on est en face d'une peinture plutôt abstraite.
Oui, alors là, c'est une des dernières peintures que j'ai fait pour mon diplôme. Et c'est aussi une de mes préférées. En fait, elle s'appelle Latéralisation. Et on va dire qu'elle prend source dans des engins qui mettent à niveau le sol. Souvent, dans les chantiers, j'ai pu observer des sortes de gros tracteurs avec des rouleaux qui aplatissent tout au même niveau. Et en fait, moi, je fais un lien théorique aussi sur cette idée de déhiérarchiser les formes, d'enlever un petit peu les frontières. Et donc, c'est une toile qui exprime un petit peu un mouvement de mise à niveau avec un rouleau, avec des lignes assez vives au centre et plus floues sur les côtés, comme si c'était un rouleau un peu compresseur qui venait vers nous. Et donc elle est très horizontale, c'est aussi comme un paysage en fait, avec au-dessus un fond très sombre, métallique, un petit peu violet. Et donc ce serait un petit peu la cabine du tracteur.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce noir. Oui. Il n'est pas uni, il y a des formes qui apparaissent. C'est une peinture qu'il faut vraiment voir de près.
Oui, c'est vrai, c'est une peinture qui reste concentrée que sur la sensation et sur l'effet visuel aussi que produit ce rouleau, jaune luminescent, avec le contraste fort dans le fond, violet, métallique, très foncé.
À l'huile aussi ?
Oui.
Et on dirait qu'elle n'est pas sec. Alors, c'est une fausse impression ?
Oui, alors ça, c'est grâce à la peinture à l'huile, ça produit des brillances et selon les niveaux de dilution, on peut avoir des endroits plus ou moins mat ou plus ou moins brillants. Et j'aime bien aussi jouer de ça dans mes tableaux, puisque je trouve que chaque surface apporte une vision différente et puis ça met en valeur des volumes. C'est ce que j'adore dans la peinture à l'huile, c'est que c'est très fluide, très souple. On peut vraiment avoir un gros panel de textures différentes.
Et cette surface assez particulière de garder cette brillance, on la retrouve aussi dans l'installation qui se trouve à la droite, cette grande toile.
Oui. Alors là, c'est un diptyque qui s'appelle VS. Et donc, c'est deux pattes de chien. Une qui est plutôt claire et qui est tournée vers le haut. Une deuxième qui est plutôt sombre et qui est tournée vers le bas. Et donc là, je voulais faire quelque chose de très binaire, mais en même temps qui se décroche un petit peu de l'espace parce qu'il y a une toile qui est accrochée au mur et l'autre toile qui vient en biais dans son prolongement, relie du coup le sol et le bas du mur. Donc ça fait une toile qui est inclinée à peu près à 45 degrés du sol et qui crée vraiment un diptyque qui est relié. Après, il y a des traitements au niveau de la peinture qui sont très différents entre celle qui est plus claire et celle qui est plus foncée. Celle qui est plus claire, on va dire qu'elle est bien délimitée et que les traits sont plus nets. Elle a peut-être un petit peu plus de corps aussi et plus de présence. La deuxième, elle joue beaucoup des matités et des brillances. Elle est plus sombre. Il y a en fait des sortes de coulures qui peuvent aussi figurer des poils ou des reflets. Et en fait, j'ai mis beaucoup d'huile pour aussi créer des halos plus fantomatiques. Donc c'est voilà, une toile qui traite un peu un même sujet, mais avec des manières de peindre différentes. Et je trouve ça bien de multiplier aussi les définitions, les images, ou de travailler en opposition. J'ai vu la patte un petit peu comme un truc en même temps qui fait peur, avec des griffes, la patte du loup ou de l'ours. Et en même temps, on peut voir une patte de chiot qui est toute disproportionnée, qui peut être plus marrante. Et voilà, c'est vrai que c'est pour élargir les différentes pattes possibles.
Donc encore un jeu de mots.
Oui, j'aime bien les jeux de mots.
Et là, on arrive à la fin de l'expo.
Bonjour.
Deux mots encore sur cette installation qui s'étale devant nous. Alors, c'est de la toile qui est partiellement pliée par terre.
Oui, alors c'est une toile de trampoline sans cadre qui représente un planeur qui est un petit peu plié dans tous les sens et qui sort d'un cercle gris assez clair, un petit peu comme un ciel. Donc il sort du ciel et puis le nez du planeur percute le mur et donc la toile est pliée et puis un petit peu malmenée. Par ailleurs, il y a un gros reflet sur la vitre qui est presque métallique ou liquide ou qu'on ne sait pas trop. En fait, cette partie de l'exposition, c'est vraiment une question de mouvement et de sensation. On est plutôt sur des types de véhicules. Il y a aussi donc, un tout petit pneu qui est posé juste à côté du planeur. Sur le pneu, ce que j'aimais bien, c'est... En fait, c'est lors d'un stage de conduite sur glace, j'ai découvert la question de l'adhérence des pneus. Et donc, selon la forme des pneus, il y a une adhérence qui est plus ou moins différente. Par exemple, quand il pleut, c'est des pneus qui sont très creux, sur lesquels en fait, l'eau va fuir au contact du sol. Ça crée des sortes de gouttières pour l'eau. Et donc, ouais, c'est ce qui m'a intéressée dans cette forme-là. Après, juste à côté, en fait, on a, là, on pourrait dire que c'est une série, parce qu'on a un très gros format d'une voiture. Je suis partie en fait, d'une visite des voitures de Bugatti. J'ai vu le musée automobile en fait, à Mulhouse, et donc il y a toute l'histoire de cette marque de voiture qui se veut un petit peu particulière ou un petit peu à côté, en décalage avec d'autres constructions de voitures, parce qu'ils ont des ateliers très manuels avec des outils, et même historiquement en fait, je crois que c'est Ettore Bugatti qui a créé cette marque. Il vient des Beaux-Arts, et donc il crée ses voitures en créant même ses propres boulons. Donc toute pièce de la voiture est créée manuellement avec un format qui lui est propre. Et en fait, souvent, c'était des modèles uniques aussi. Donc pour moi, c'est des voitures qui sont un petit peu comme des œuvres d'art qui sont très, très spéciales. Elles vont très vite aussi. Et donc, j'ai voulu avoir une sensation en fait, d'une voiture qui arrive vers nous, qui a les pleins phares, et donc a beaucoup de lumière dans ses phares. Et en même temps, il y a des traits aussi un petit peu personnifiés, un petit peu humains. C'est des formes qui peuvent aller vers d'autres formes aussi. Et donc, justement, on a après juste un plus petit format qui est posé sur une marche. Et là, ça se transforme presque en soucoupe, en fait, quelque chose qui n'a plus de forme, mais seulement comme un vecteur avec de la lumière. Et donc, c'est une forme plus ronde. Et après, au niveau des fonds, il y a beaucoup de flou. C'est un petit peu comme une sorte de plastique qui traduit cette sensation d'arrivée de la voiture. Et des couleurs assez vives, avec un petit peu toujours des reflets sur des parties vitrées ou métalliques.
Merci beaucoup, Louise.
Grammaire fantôme.
On se retrouve la semaine prochaine avec notre nouvelle invitée.
Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Grammaire fantôme. Une émission Panadia Lichtig.